Livre septième, Imprudence de faire des questions à un livre. Chapitre 1, La perle au fond du précipice. Quelques minutes après son court colloque avec Sieur Landois, Gilliatt était à Saint-Sanson. Gilliatt était inquiet jusqu'à l'anxiété. Qu'était-il donc arrivé? Saint-Sanson avait une rumeur de ruches effarouchées. Tout le monde était sur les portes. Les femmes s'exclamaient. Il y avait des gens qui semblaient raconter quelque chose et qui gesticulaient. On faisait groupe autour d'eux. On entendait ce mot « Quel malheur !» Plusieurs visages souriaient. Gilliatt n'interrogea personne. Il n'était pas dans sa nature de faire des questions. D'ailleurs, il était trop ému pour parler à des indifférents. Il se défiait des récits. Il aimait mieux tout savoir d'un coup. Il alla droit au bravé. Son inquiétude était telle qu'il n'eut même pas peur d'entrer dans cette maison. D'ailleurs, la porte de la salle basse sur le quai était toute grande ouverte. Il y avait sur le seuil un fourmillement d'hommes et de femmes. Tout le monde entrait. Il entra. En entrant, il trouva contre le chambranle de la porte Sieur Landois, qui lui dit à demi-voix « Vous savez sans doute à présent l'événement. » « Non. » « Je n'ai pas voulu vous crier ça dans la route. On a l'air d'un oiseau de malheur. »« Qu'est-ce ? » ?»« La Durande est perdue. » Il y avait foule dans la salle. Les groupes parlaient bas, comme dans la chambre d'un malade. Les assistants qui étaient les voisins, les passants, les curieux, les premiers venus, se tenaient entassés près de la porte, avec une sorte de crainte, et laissaient vide le fond de la salle où l'on voyait, à côté de Déruchette en larmes, assise, Mess Lethierry, debout. Il était adossé à la cloison du fond. Son bonnet de matelot tombait sur ses sourcils. Une mèche de cheveux gris pendait sur sa joue. Il ne disait rien. Ses bras n'avaient pas de mouvement, sa bouche semblait n'avoir plus de souffle. Il avait l'air d'une chose posée contre le mur. On sentait, en le voyant, l'homme au-dedans duquel la vie vient de s'écrouler. Durande n'étant plus, Lethierry n'avait plus de raison d'être. Il avait une âme en mer, cette âme venait de sombrer. Que devenir maintenant? Se lever tous les matins, se coucher tous les soirs. Ne plus attendre Durande, ne plus la voir partir, ne plus la voir revenir. Qu'est-ce qu'un reste d'existence sans but? Boire, manger. Et puis, cet homme avait couronné tous ses travaux par un chef-d'œuvre et tous ses dévouements par un progrès. Le progrès était aboli, le chef-d'œuvre était mort. Vivre encore quelques années vides, à quoi bon? Rien à faire désormais. À cet âge, on ne recommence pas. En outre, il était ruiné. Pauvre vieux bonhomme. Déruchette, pleurante près de lui sur une chaise, tenait dans ses deux mains un des poings de Mess Lethierry. Les mains étaient jointes, le poing était crispé. La nuance des deux accablements était là. Dans les mains jointes, quelque chose espère encore. Dans le poing crispé, rien. Mess Lethierry lui abandonnait son bras et la laissait faire. Il était passif. Il n'avait plus que la quantité de vie qu'on peut avoir après le coup de foudre. Il y a de certaines arrivées au fond de l'abîme qui vous retirent du milieu des vivants. Les gens qui vont et viennent dans votre chambre sont confus et indistincts. Ils vous coudoient sans parvenir jusqu'à vous. Vous leur êtes inabordables et ils vous sont inaccessibles. Le bonheur et le désespoir ne sont pas les mêmes milieux respirables. Désespéré, on assiste à la vie des autres de très loin. On ignore presque leur présence. On perd le sentiment de sa propre existence. On a beau être en chair et en os, on ne se sent plus réel. On n'est plus pour soi-même qu'un songe. Mess Lethierry avait le regard de cette situation-là. Les groupes chuchotaient. On échangeait ce qu'on savait. Voici quelles étaient les nouvelles. La Durande s'était perdue la veille sur le rocher Douvres, par le brouillard, une heure environ avant le coucher du soleil. À l'exception du capitaine, qui n'avait pas voulu quitter son navire, les gens s'étaient sauvés dans la chaloupe. Une bourrasque de sud-ouest, survenue après le brouillard, avait failli les faire naufrager une seconde fois, et les avait poussés au large au-delà de Guernesey. Dans la nuit, ils avaient eu ce bon hasard de rencontrer le Cachemire, qui les avait recueillis et amenés à Saint-Pierre-Port. Tout était la faute du timonier Tangrouille, qui était en prison. Clubin avait été magnanime. Les pilotes qui abondaient dans les groupes prononçaient ce mot, l'écueil d'Ouvre, d'une façon particulière. Mauvaise auberge, disait l'un d'eux. On remarquait sur la table une boussole et une liasse de registres et de carnets. C'était sans doute la boussole de la Durande et les papiers de bord remis par Clubin à Ibrancam et à Tangrouille au moment du départ de la chaloupe. Magnifique abnégation de cet homme, sauvant jusqu'à des paperasses à l'instant où il se laisse mourir. Petit détail plein de grandeur, oubli sublime de soi-même. On était unanime pour admirer Clubin, et, du reste, unanime aussi pour le croire, après tout sauvé. Le coutre Shiltil était arrivé quelques heures après le Cachemire. C'était ce coutre qui apportait les derniers renseignements. Il venait de passer 24 heures dans les mêmes eaux que la Durande. Il y avait patienté pendant le brouillard et le voyait pendant la tempête. Le patron du Shiltil était présent parmi les assistants. À l'instant où Gilliatt était entré, ce patron venait de faire son récit à Mess Lethierry. Ce récit était un vrai rapport. Vers le matin, la bourrasque étant finie et le vent devenant maniable, le patron du Shiltil avait entendu des beuglements en pleine mer. Ce bruit de prairie au milieu des vagues l'avait surpris. Il s'était dirigé de ce côté. Il avait aperçu la Durande dans les rochers d'Ouvre. La calmie était suffisante pour qu'il pût approcher. Il avait hélé l'épave. Le mugissement des bœufs qui se noyaient dans la cale avait seul répondu. Le patron du Shiltil était certain qu'il n'y avait personne à bord de la Durande. L'épave était parfaitement tenable, et si violente qu'eût été la bourrasque, Clubin eût pu y passer la nuit. Il n'était pas homme à lâcher prise aisément. Il n'y était point, donc il était sauvé. Plusieurs sloops et plusieurs lougres de Granville et de Saint-Malo, se dégageant du brouillard, avaient dû, la veille au soir, ceci était hors de doute, côtoyer d'assez près l'écueil d'Ouvre. Un d'eux avait évidemment recueilli le capitaine Clubin. Il faut se souvenir que la chaloupe de la Durande était pleine, en quittant le navire échoué, qu'elle allait courir beaucoup de risques, qu'un homme de plus était une surcharge et pouvait la faire sombrer. Et que c'était là surtout ce qui avait dû déterminer Clubin à rester sur l'épave. Mais, une fois son devoir rempli, un navire sauveteur se présentant, Clubin n'avait, à coup sûr, fait nulle difficulté d'en profiter. On est un héros, mais on n'est pas un niais. Un suicide eût été d'autant plus absurde que Clubin était irréprochable. Le coupable, c'était Tangrouille et non Clubin. Tout ceci était concluant. Le patron du Shiltil avait visiblement raison, et tout le monde s'attendait à voir Clubin reparaître d'un moment à l'autre. On préméditait de le porter en triomphe. Deux certitudes ressortaient du récit du patron. Clubin sauvé et la Durande perdue. Quant à la Durande, il fallait en prendre son parti. La catastrophe était irrémédiable. Le patron du Shiltil avait assisté à la dernière phase du naufrage. Le rocher fort aigu, où la Durande était en quelque sorte clouée, avait tenu bon toute la nuit, et avait résisté au choc de la tempête comme s'il voulait garder l'épave pour lui. Mais au matin, à l'instant où le Shiltil, constatant qu'il n'y avait personne à sauver, allait s'éloigner de la Durande, il était survenu un de ces paquets de mer qui sont comme les derniers coups de colère des tempêtes. Ce flot avait furieusement soulevé la Durande, l'avait arrachée du brisant, et avec la vitesse et la rectitude d'une flèche lancée, l'avait jetée entre les deux roches d'Ouvre. On avait entendu un craquement diabolique, disait le patron. La Durande, portée par la lame à une certaine hauteur, s'était engagée dans l'entre-deux des roches, jusqu'au maître-couple. Elle était de nouveau clouée, mais plus solidement que sur le brisant sous-marin. Elle allait rester là, déplorablement suspendue, livrée à tout le vent et à toute la mer. La Durande, au dire de l'équipage du Chiltil, était déjà aux trois quarts fracassée. Elle eût évidemment coulé dans la nuit si l'écueil ne l'eût retenue et soutenue. Le patron du Chiltil, avec sa lunette, avait étudié l'épave. Il donnait avec la précision marine le détail du désastre. La hanche de tribord était défoncée, les mâts tronqués, la voilure déralinguée, les chaînes des haubans presque toutes coupées, la claire-voie du capot de chambre écrasée par la chute d'une vergue, les jambettes brisées au ras du plat-bord, depuis le travers du grand mât jusqu'au couronnement, le dôme de la cambuse effondré, les chantiers de la chaloupe culbutés, le roufle démonté, l'arbre du gouvernail rompu, les drosses déclouées, les pavois rasés, les bites emportées, le traversin détruit, la lisse enlevée, l'étambot cassé. C'était toute la dévastation frénétique de la tempête. Quant à la grue de chargement scellée au mât sur l'avant, plus rien. Aucune nouvelle, nettoyage complet. Partie à tous les diables, avec sa guindresse, ses moufles, sa poulie de fer et ses chaînes. La Durande était disloquée. L'eau allait maintenant se mettre à la déchiqueter. Dans quelques jours, il n'en resterait plus rien. Pourtant, la machine, chose remarquable et qui prouvait son excellence, était à peine atteinte dans ce ravage. Le patron du Chiltil croyait pouvoir affirmer que la manivelle n'avait point d'avarie grave. Les mâts du navire avaient cédé, mais la cheminée de la machine avait résisté. Les gardes de fer de la passerelle de commandement étaient seulement tordus. Les tambours avaient souffert, les cages étaient froissées, mais les roues ne paraissaient pas avoir une palette de moins. La machine était intacte. C'était la conviction du patron du Chiltil. Le chauffeur et Brancam, qui étaient mêlés au groupe, partageaient cette conviction. Ce nègre, plus intelligent que beaucoup de blancs, était l'admirateur de la machine. Il levait les bras en ouvrant les 10 doigts de ses mains noires et disait à Lethierry muet « Mon maître, la mécanique est en vie. » Le salut de Clubin semblant assuré et la coque de la Durande étant sacrifiée, la machine, dans les conversations des groupes, était la question. On s'y intéressait comme à une personne. On s'émerveillait de sa bonne conduite. « Voilà une solide commère, » disait un matelot français. « C'est de quoi bon ?» s'écriait un... « C'est de quoi bon ?» s'écriait un pêcheur guernesiais. « Il faut qu'elle ait eu de la malice, » reprenait le patron du Chiltil, « pour se tirer de là avec 2 ou 3 écorchures. » Peu à peu, cette machine fut la préoccupation unique. Elle échauffa les opinions pour et contre. Elle avait des amis et des ennemis. Plus d'un qui avait un bon vieux coutre à voile et qui espérait ressaisir la clientèle de la Durande n'était pas fâché de voir l'écueil d'Ouvre faire justice de la nouvelle invention. Le chuchotement devint brouhaha. On discuta presque avec bruit. Pourtant, c'était une rumeur toujours un peu discrète, et il se faisait par intervalle de subits abaissements de voix, sous la pression du silence sépulcral de Lethierry. Du colloque engagé sur tous les points, il résultait ceci. La machine était l'essentiel. Refaire le navire était possible. Refaire la machine, non. Cette machine était unique. Pour en fabriquer une pareille, l'argent manquerait. L'ouvrier manquerait encore plus. On rappelait que le constructeur de la machine était mort. Elle avait coûté 40 000 francs. Personne ne risquerait désormais sur une telle éventualité un tel capital. D'autant plus que voilà qui était jugé. Les navires à vapeur se perdaient comme les autres. L'accident actuel de la Durande coulait à fond tout son succès passé. Pourtant, il était déplorable de penser qu'à l'heure qu'il était, cette mécanique était encore entière et en bon état, et qu'avant 5 ou 6 jours, elle serait probablement mise en pièces comme le navire. Tant qu'elle existait, il n'y avait, pour ainsi dire, pas de naufrage. La perte seule de la machine serait irrémédiable. Sauver la machine, ce serait réparer le désastre. Sauver la machine, c'était facile à dire. Mais qui s'en chargerait? Est-ce que c'était possible? Faire et exécuter, c'est deux. Et la preuve, c'est qu'il est aisé de faire un rêve, et difficile de l'exécuter. Or, si jamais un rêve avait été impraticable et insensé, c'était celui-ci. Sauver la machine échouée sur les Douvres. Envoyer travailler sur ces roches un navire et un équipage serait absurde. Il n'y fallait pas songer. C'était la saison des coups de mer. À la première bourrasque, les chaînes des ancres seraient sciées par les crêtes sous-marines des brisants, et le navire se fracasserait à l'écueil. Ce serait envoyer un deuxième naufrage au secours du premier. Dans l'espèce de trou du plateau supérieur où s'était abrité le naufragé légendaire mort de faim, il y avait à peine place pour un homme. Il faudrait donc que, pour sauver cette machine, un homme allât au rocher Douvres et qu'il y allât seul, seul dans cette mer, seul dans ce désert, seul à 5 lieues de la côte, seul dans cette épouvante, seul des semaines entières, seul devant le prévu et l'imprévu, sans ravitaillement dans les angoisses du dénuement, sans secours dans les incidents de la détresse, sans autre trace humaine que celle de l'ancien naufragé expiré de misère là, sans autre compagnon que ce mort. Et comment s'y prendrait-il d'ailleurs pour sauver cette machine? Il faudrait qu'il fût non seulement matelot, mais forgeron. Et à travers quelles épreuves? L'homme qui tenterait, cela serait plus qu'un héros. Ce serait un fou. Car dans de certaines entreprises disproportionnées, où le surhumain semble nécessaire, la bravoure a, au-dessus d'elle, la démence. Et en effet, après tout, se dévouer pour de la ferraille, ne serait-ce pas extravagant? Non. Personne n'irait au rocher Douvres. On devait renoncer à la machine comme au reste. Le sauveteur qu'il fallait ne se présenterait point. Où trouver un tel homme? Ceci, dit un peu autrement, était le fond de tous les propos murmurés dans cette foule. Le patron du Shealtiel, qui était un ancien pilote, résuma la pensée de tous par cette exclamation à voix haute. « Non, c'est fini. L'homme qui ira là et qui rapportera la machine n'existe pas. »« Puisque je n'y vais pas, » ajouta Ibrahim, « c'est qu'on ne peut pas y aller. » Le patron du Shealtiel secoua sa main gauche avec cette brusquerie qui exprime la conviction de l'impossible, et reprit, s'il existait. Déruchette tourna la tête. « Je l'épouserai, » dit-elle. Il y eut un silence. Un homme très pâle sortit du milieu des groupes et dit, « Vous l'épouseriez, Miss Déruchette ?» C'était Gilliatt. Cependant, tous les yeux s'étaient levés, mais Lethierry venait de se dresser tout droit. Il avait sous le sourcil une lumière étrange. Il prit du poing son bonnet de matelot et le jeta à terre, puis il regarda solennellement devant lui, sans voir aucune des personnes présentes, et dit « Déruchette l'épouserait. J'en donne ma parole d'honneur au bon Dieu. »